Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero au micro pour vous présenter cette édition d'Escale. Cette semaine, tour d'horizon des défis actuels de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ebola, Boko Haram et conflits centrafricains sont autant de dossiers que nous abordons avec Laurent Duvillier, porte-parole de l'UNICEF pour la région, récemment de passage dans nos studios. Bonne écoute.
My people, let's keep our eyes open for any signs of Ebola.
Au niveau de l'Ebola, malheureusement, les nouvelles qui nous arrivent ne sont pas très bonnes. On voit aujourd'hui une deuxième vague avec des nouveaux cas recensés par différentes organisations qui montrent qu'il y a de nouveau une explosion du nombre de cas. Ça, c'est le premier facteur qui est préoccupant. Le second facteur qui est préoccupant, c'est qu'on voit que l'épicentre de l'épidémie est aujourd'hui en Sierra Leone. Et troisième point qui est peut-être le plus préoccupant, on voit que parmi la population, et c'est valable pour la Guinée, mais aussi surtout pour le Libéria et la Sierra Leone, il y a de plus en plus de superstitions, de présupposés sur la maladie, de comment ça se guérit, pourquoi les gens qu'on amène dans ces centres de traitement, souvent ils n'en ressortent pas ou ils décèdent. C'est une maladie qui a un taux de mortalité très important, pour lequel il n'y a pas de remède, il n'y a pas de vaccin, mais il est très important de pouvoir mettre en quarantaine les gens qui ont été en contact direct avec des corps de malades ou avec des personnes qui ont été affectées. Il y a beaucoup de superstitions, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas fondées, et c'est très difficile de convaincre les gens qu'un traitement est nécessaire quand on ne peut pas forcément les convaincre que ce traitement va amener à une guérison. Oui, il y a des guérisons. Et c'est important de le faire savoir. Et le travail de l'UNICEF, c'est justement de faire ça.
Alors justement, comment s'active l'UNICEF autour de l'Ebola ?
Alors, essentiellement, on s'est réparti les tâches et il y a eu à Accra une réunion de tous les acteurs humanitaires pour la première fois, y compris tous les gouvernements de la région. Ils se sont tous accordés pour dire que oui, il faut se serrer les coudes. Oui, il faut plus de ressources. Ça, c'est l'OMS qui s'en charge. Ça, c'est Médecins Sans Frontières qui s'en charge. Alors, la contribution de l'UNICEF, c'est d'accompagner les gouvernements pour faire des campagnes de sensibilisation. Alors, ça prend différentes formes. Il y a eu des affiches qui expliquaient en quoi consiste l'Ebola, quels sont les signes précurseurs. Et dès qu'on voit ces signes, que faut-il faire? Alors, il y a des numéros verts qui ont été mis sur pied dans les pays pour pouvoir obtenir très rapidement une attention médicale. Mais ces affiches ne suffisent pas. On a dû être beaucoup plus créatifs. Alors, au Libéria et en Sierra Leone notamment, l'UNICEF a travaillé avec des artistes locaux pour toucher un public jeune, des rappeurs notamment, des gens qui font de la pop, pour mettre en musique des mesures qui permettent de réduire les risques en prenant des méthodes simples, en évitant les contacts avec les personnes qui sont décédées d'Ebola, en nettoyant bien les vêtements. Il y a des choses qui peuvent permettre de réduire les risques. Et on en a fait des chansons aujourd'hui.
Mais comment répondez-vous à ceux qui disent, par exemple, hors de question que j'amène ma famille se faire tester, s'ils risquent justement de se retrouver dans un centre où il y a d'autres cas d'Ebola?
C'est une préoccupation, évidemment, et c'est là où l'information joue. Une des tactiques qui est utilisée maintenant, c'est de faire jouer un rôle particulier à ceux qui ont survécu et que ces gens-là racontent comment ça s'est passé. Que, effectivement, les personnes affectées, quand elles arrivent, sont immédiatement séparées les unes des autres. Et surtout, qu'est-ce qui est fait? On les amène à la radio, par exemple, pour qu'ils partagent leur témoignage, pour qu'ils disent « n'ayez pas peur, on n'est pas en train de tuer les gens dans ces centres de quarantaine, on est en train d'essayer de sauver des vies. On ne peut pas donner de garantie que les vies seront sauvées, mais si on n'y va pas, il y aura plus de vies perdues. » Protect your family, for I see. Protect your community, for I see. Schoolgirls in Nigeria, they were abducted by the terror group Boko Haram.
Alors, on se dirige vers le Nigeria. Nigeria où la violence sévit dans le nord du pays de façon croissante depuis 2013 et où il y a eu, en fait, cette année, l'enlèvement de plus de 300 filles qui étaient à l'école par Boko Haram. Alors, pouvez-vous nous dire où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à ces filles à plus de 100 jours de leur enlèvement?
C'est un sujet de préoccupation et c'est plus de 3 mois maintenant que plus de 200 jeunes filles ont été enlevées. On imagine la détresse des parents. Chaque jour, ils se lèvent et ils ne savent pas où leurs filles se trouvent. Chacun d'entre nous, je pense que chaque père, chaque mère peut s'identifier à eux et se dire « si c'était mon fils, si c'était ma fille, comment je me sentirais ?» Et je pense qu'il y a cette détresse humaine qui est là, qui est véritable et auquel il y a peu de réponses qui sont apportées parce que, honnêtement, peu de gens savent où se trouvent ces jeunes filles. Et aujourd'hui, il n'y a pas de preuve tangible d'une localisation et certainement pas de prémisse d'avancée dans la recherche.
Alors justement, qu'a pu faire l'UNICEF pour ces filles dans le cadre de leur enlèvement ?
Alors, les efforts sont toujours en cours. Maintenant, ce qui a été fait directement, d'abord, c'était de contribuer à appeler l'attention internationale. Dès le premier jour de l'annonce de l'enlèvement des jeunes filles, l'UNICEF a pris position, a condamné très fermement, dans les termes les plus durs, les agissements, et a appelé une mobilisation internationale. Et dans ce cadre-là, ça a été créé tout ce mouvement qu'on a vu, et cet engouement international avec des célébrités, avec des chanteurs qui manifestent leur soutien. Et tout cela est positif, parce que ça maintient l'attention internationale sur le sujet. Et ça permet que le gouvernement nigérian sente qu'il y a un intérêt et par la suite fasse appel à d'autres gouvernements pour un appui logistique ou éventuellement militaire dans la recherche de ces jeunes filles. Mais au-delà de ces efforts-là, il y a un appui technique très concret par rapport au trauma, par rapport à la souffrance qu'on imagine de ces parents et de ces jeunes filles. Il y a une trentaine de spécialistes en appui psychosocial qui ont été formés, qui eux-mêmes vont former plus de 600 volontaires communautaires et qui vont pouvoir fournir cet appui psychosocial aux familles. Pourquoi c'est important ? Parce que ce qu'on voit souvent, et l'UNICEF a beaucoup d'expérience à ce niveau-là, le jour où elles seront libérées, quand elles retournent dans leur communauté, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a un rejet qui se passe. Ces jeunes filles ont souvent été sujettes à des formes de violence, parfois même sexuelles, et ça va créer dans leurs communautés, qui sont souvent des communautés rurales, beaucoup de discrimination, beaucoup de stigma. Si on ne veut pas que ce rejet se passe au moment de la libération, il faut préparer les communautés, il faut préparer les familles pour qu'elles puissent s'exprimer, qu'elles puissent savoir comment gérer leur trauma, leur stress personnel, mais qu'elles sachent également comment accueillir ces jeunes filles.
Pourquoi est-ce qu'elles sont rejetées ?
Elles sont rejetées parce qu'on va sans doute jeter l'opprobre sur ces jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, qui ont été soumises à différentes formes de violence. Alors il va y avoir beaucoup de rumeurs qui vont se développer sur ce qui s'est passé pendant cet enlèvement. Donc il faut pouvoir encadrer ces jeunes filles, éviter qu'elles soient à nouveau victimes, en plus du trauma qu'elles ont vécu, de notre type de discrimination. Et cet accompagnement-là, ce n'est pas quelque chose qu'il faudra improviser au moment de la libération. C'est quelque chose qu'on peut anticiper et pour lequel on peut fournir un accompagnement. Et c'est le but de l'accompagnement de l'UNICEF dans ces communautés.
Et en fait, l'enlèvement de ces jeunes filles s'inscrit donc dans une violence plus large, qui vont dans le sens même de l'essence de la mission de Boko Haram, et en fait qui ont des répercussions sur l'éducation.
Tout à fait. Cet enlèvement, d'abord, c'est malheureusement le dernier événement d'une longue série d'attaques sur les écoles, sur les écoliers, mais c'est surtout aussi le sommet de l'iceberg d'un programme qui est beaucoup plus vaste. La situation s'est détériorée depuis 2013, il y a de plus en plus d'attaques sur l'éducation, mais les tactiques qui ont été utilisées par Boko Haram, par le groupe terroriste, ont changé. Il y a quelques années, c'était des édifices, les écoles, qui étaient pris pour cible la nuit majoritairement et quand les édifices étaient vides. On y mettait le feu, on détruisait l'infrastructure. Aujourd'hui, la cible a changé. Ceux qui sont pris pour cible, ce sont les professeurs, les directeurs d'école, les parents, les écoliers eux-mêmes. L'idée est très claire, c'est d'instaurer un climat de peur. Donner la peur au ventre au professeur qui va donner cours tous les jours. Donner la peur au ventre à ce père qui voit sa jeune fille partir à l'école et qui se demande s'il va la revoir ce soir. Et ça marche. Cette tactique odieuse fonctionne. Elle crée la peur, non pas dans un village, non pas dans une communauté, mais dans pratiquement tout l'état de Borno, du nord du Nigeria. Donc, il faut promouvoir l'école pour ces jeunes filles. Et il y a des tactiques qui existent, notamment si on ne peut pas envoyer les filles à l'école, eh bien rapprochons l'école des jeunes filles. Peut-être que l'apprentissage peut avoir lieu chez certains habitants pour que les jeunes filles ne doivent pas se déplacer loin, doivent juste aller chez un voisin. La cible de l'école n'existe plus et donc c'est peut-être un des moyens de désamorcer cette tactique perverse de Boko Haram, c'est de dire qu'en fait il n'y a plus une école. L'école est partout, dans chaque maison.
Alors, on passe à la République centrafricaine qui, en 2013 surtout, mais qui depuis en fait, la fin 2012 a connu une crise importante et croissante. Alors, que voit-on aujourd'hui ?
C'est une situation extrêmement préoccupante, ce qui est en train de se passer en République centrafricaine. D'abord, c'est un pays qui, déjà avant la crise, était en mauvaise posture. Les indicateurs dans le rouge, pratiquement tous. Des taux de mortalité infantile très élevés, des taux de scolarité très très bas. Et sur ceci vient se greffer un conflit. Depuis le début de l'année, on s'est rendu compte que les besoins étaient énormes et que la réponse humanitaire n'était pas à la mesure des besoins. Et aussi, on s'est rendu compte que c'est à nouveau un problème qui va au-delà de la Centrafrique. Malheureusement, comme souvent, le conflit s'est exporté.
Alors justement, vous vous êtes rendu dans les pays voisins, le Tchad et le Cameroun ?
Le Tchad et le Cameroun, effectivement, où il y a maintenant des flux de réfugiés qui ne cessent pas. À l'heure actuelle, il y a tous les jours des gens, des réfugiés, des retournés de Centrafrique qui traversent la frontière, que ce soit vers le Tchad ou le Cameroun, pour fuir la violence. Et ils arrivent dans un état de délabrement psychologique, mais aussi des taux de malnutrition très élevés. On n'a jamais vu des taux de malnutrition si élevés et plus graves. D'habitude, la malnutrition sévère aiguë touche des enfants de moins de 5 ans. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Ce sont des familles entières qui sont touchées. La maman, la sœur de 8 ans et le petit garçon. Pendant des mois, ils ont erré dans les bois. Ils ont essayé de se cacher de ces différents groupes. Parce que maintenant, aujourd'hui, le problème, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas une partie ou un autre. Il y a différents groupes armés. Et ces groupes armés se livrent à des tas d'atrocités, mais aussi à des actes de criminalité. Et donc, les gens se retrouvent en danger, chrétiens et musulmans. Et ils se retrouvent à se cacher dans les bois, sans nourriture, pendant des mois et des mois.
Vous avez pu parler avec des gens qui avaient traversé la frontière ?
Oui, tout à fait. On était au Tchad et je me souviens d'une petite fille dans un des camps on les appelle les retournés parce que les gens en Centrafrique leur disaient « Vous êtes des Tchadiens, vous devez retourner chez vous. » Et en fait, cette petite qui a 12 ans, je me souviens très bien, on s'est assis ensemble, on a discuté dans sa tente. Je lui ai dit « Tu te sens comment ? Tu te sens tchadienne ? Tu te sens centrafricaine ?» Elle m'a dit « Vous savez, moi je suis née en Centrafrique. Je ne parle pas la langue du Tchad. Je ne suis jamais venu au Tchad. Je suis ici dans un pays où je ne connais personne. » Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que cette jeune fille de 12 ans, je lui disais « De quoi as-tu envie aujourd'hui ? As-tu envie de retourner en Centrafrique ?» Elle m'a dit « Je suis centrafricaine, mais je ne me sens plus bienvenue chez moi. À la rigueur que je ne puisse pas retourner dans mon pays, j'ai fait mon deuil, j'ai tourné la page. Mais ce qui me traumatise le plus, c'est que je ne peux plus aller à l'école. Et là, je dois me livrer aux tâches ménagères parce que sa maman se retrouve toute seule. Le papa n'a pas pu se joindre, il est resté en Centrafrique et elle doit aider sa maman. Et c'est là où, à nouveau, l'UNICEF est en train de fournir un appui pour développer l'éducation dans ces camps de réfugiés pour que ces enfants qui étaient scolarisés, ces jeunes filles qui étaient scolarisées, puissent retourner à l'éducation. On n'a pas le luxe de pouvoir perdre des jeunes filles qui étaient scolarisées et qui, à cause du conflit, vont perdre le fil de l'éducation. Une fois qu'il est perdu, c'est fini.
Je veux qu'il me pousse des ailes, qu'elle soit grande, grande et belle, de belles ailes blanches et noires que je déplierai.
Alors vous êtes porte-parole donc de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Vous êtes donc amené à aller sur le terrain. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans votre travail ? Qu'est-ce qui est le plus poignant pour vous ?
Ce qui me frappe souvent, c'est que où qu'on aille, les enfants souvent vous disent la même chose. Ils vous disent « J'ai envie d'aller à l'école. J'ai envie de devenir quelqu'un. J'ai envie de pouvoir aider mes parents. » C'est toujours ce qui revient. « J'ai envie de me rendre utile. J'ai envie de pouvoir jouer un rôle dans la société. » Et ça, on se rend compte qu'il y a cette envie-là et on le sent dans les yeux des enfants. Et on se dit « On doit être en mesure de faire quelque chose. » Quand on voit un enfant qui vous dit « J'ai envie d'aller à l'école. » Et quand on voit le peu d'argent que ça demande de pouvoir offrir cette possibilité et qu'on a la chance de pouvoir le faire, je pense que c'est criminel de ne pas pouvoir saisir cette opportunité-là. Quand on voit l'envie qu'il y a, et c'est valable pour les parents aussi, quand on pose la question aux parents, ils vous disent quoi ? « Envoyez ma fille à l'école, s'il vous plaît. Offrez-lui un futur. Je veux devenir quelqu'un. » Partout en Afrique où je vais, j'entends les enfants qui me disent « I want to be somebody ». Et qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux devenir quelqu'un. Mais tu es quelqu'un. Oui, mais j'ai un nom. Je veux pouvoir aider ma famille. Et je sais que je ne peux pas les aider si je n'ai pas un bon travail. Comment je peux obtenir un bon travail ? C'est l'éducation. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est bien. Parce qu'il y a 20-30 ans, ce n'était pas forcément la norme.
Le message est passé.
Le message est passé. Mais aujourd'hui, on doit être en mesure de pouvoir fournir la chance à tous ces enfants. Enfants nomades, enfants pauvres, enfants dans le monde rural. Pouvoir leur offrir une chance de l'éducation. Et si on le fait pour les filles, pour les garçons, ce sera sans doute le meilleur moyen de pouvoir changer les sociétés à terme.
Et c'est ainsi que se referme cette édition d'Escale, consacrée cette semaine au travail de l'UNICEF en Afrique de l'Ouest et du Centre. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.